France Culture.
Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. La société vieillit, le monde vieillit. Comprendre l'Europe, le monde occidental, le Japon, mais aussi la Chine. Où envisager de terminer sa vie? Déjà, cette expression « terminer sa vie » n'a rien de très réjouissant. Sans doute. Alors sans doute dans une maison pour personnes âgées, évidemment. Mais quel genre de maison? On peut inventer une maison expérimentale, écologique et autogérée. Ce fut en 2007 le projet, à Montreuil, en banlieue parisienne, des Baba Yaga, dont, sur les docks, rendaient compte grâce à Nejma Bouakra et Philippe Rouy. La maison des Baba Yaga, vivre libre et vieille.
L'institution, c'est la dernière demeure. Et la dernière demeure, en tout cas parce que c'est Bachelard qui le dit, Bachelard dit que tout au long de sa vie, chaque être humain porte en lui le rêve de la maison qu'il aura un jour. Et que ce rêve de la maison est un rêve très puissant, dans lequel on investit beaucoup psychologiquement. Or, à ma connaissance, une institution, et une institution pour personnes âgées, n'est jamais une maison rêvée. C'est une maison finale. Mais une maison finale, dit Bachelard, c'est une maison où l'on n'a pas de rêve, où l'on n'a plus de rêve, où l'on a des songes, et généralement des songes tristes.
Oui, c'est déjà, et puis le colloque, voilà, c'est ça. Ces extraits de
la maison des Baba Yaga est utopiste, comme le sont ses bâtisseuses du 3e et 4e âge, atypiques et chargées de rêves. Si la vieillesse terrorise, le déclin, l'oubli des autres et la perte de soi, les Baba Yaga préfèrent tordre le cou au temps et résistent à la sollicitude, la prise en charge et de pouvoir des plus jeunes sur les plus vieux. De fait, elles connaissent le risque réel du grand âge, se voir imposer une vie tout autre que la leur, une vie qui ne vous ressemble pas. 1 300 000 personnes en perte d'autonomie, c'est aussi ce que l'on nomme le gisement du 4e âge, qui suscite plus d'une convoitise. Le coût d'un hébergement est en moyenne de 2 à 3 fois supérieur aux retraites. Les Baba Yaga construisent, elles, une alternative, une maison qui soit à la fois du logement social et un habitat collectif. Cette utopie concrète rappelle le béguinage, femmes qui refusèrent dès le XIIe siècle toute autorité maritale ou religieuse. Ces Baba Yaga, mi-guérisseuses, mi-sorcières, se prévoient de beaux lendemains. Ici à Montreuil, un jour de réunion où les abeilles chassent les mâles de la ruche, pratiquent l'autogestion et imaginent une maison solidaire.
Bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus. Vous êtes à Dame de Lille.
De la Dordogne.
Ah, alors j'attendais une Dame de Lille. Vive la Dordogne. Bonjour la Dordogne.
Ah, c'est bien. C'est bien, c'est sympa alors.
Ben oui.
Aussi. Et pourquoi vous venez comme moi par...
Nous, on vient de Dordogne parce qu'on a un projet qui est un peu le même et on s'est dit, mais ça alors, c'est incroyable.
C'est Dordogne, à la maison des femmes de Montreuil. Oh.
Alors, donc vous êtes ici à la maison des femmes de Montreuil, hein. Vous êtes même dans la cuisine, les femmes sont à la cuisine. Elle prépare le buffet de la réunion que nous allons avoir dans un petit moment.
Qu'est-ce que c'est ce nom de Baba Yaga? Ah,
Baba Yaga, c'est à la fois la grand-mère et la sorcière. Hein. Et alors, elle a une maison en pâte d'amande, hein, c'est ça,
oui,
avec,
c'est ça.
Je sais plus...
En pain d'épices,
etc. Alors, les gamins viennent la voir et puis ils ne résistent pas, donc ils mangent la maison. Et elle bouffe les gamins. Alors on a dit qu'on ne mangerait pas les petits-enfants, mais on veut pas être des... On n'aspire pas à être des grands-mères gâteaux, à se faire bouffer, si vous voulez. Autant on a envie d'assumer notre vieillesse, autant on ne veut pas être simplement des dames gentilles qu'on met dans un coin entre le piano et la plante verte. Donc il faut être un peu sorcier, quoi, hein, dans la vie pour pouvoir...
Pour
ouais, voilà, c'est ça.
C'est ça. Voilà.
vous découvrez le plan de la maison des Baba Yaga ?
Un peu, oui, puisque je suis sur le coup aussi, mais pas ici, bien sûr.
Où ça ?
À Lille.
À Lille ?
Oui.
Très bien.
J'étais directrice de maison de retraite, donc je connais bien le problème des personnes âgées, du vieillissement, mais je ne veux pas... Je cherche quelque chose, un équilibre entre l'isolement chez soi, enfin rester chez soi, la fin de l'activité, et puis le rentrer en maison de retraite, qui est inéluctable, bien sûr, à un certain moment. Voilà, c'est moi.
Quelle serait la différence avec une maison de retraite classique,
hein? Oh, tout. Tout. Ça n'a rien à voir. Absolument rien. Là, c'est chez soi, avec une ouverture sur la vie. En maison de retraite, c'est le contraire. Vous n'êtes pas chez vous. Vous êtes chez vous sans être chez vous. Et c'est la vie qui vient à vous. Vous n'entrez pas au Baba Yaga dans une maison de retraite. Vous changez de domicile. Et vous retrouvez des amis. Et vous coopérez à la vie de la ville, du quartier, de tout ça. En maison de retraite, quand vous y entrez, c'est une coupure, c'est une rupture. C'est là la différence. Et quand vous entrez en maison de retraite, généralement, vous savez que vous êtes là définitivement. Baba Yaga, non. On est libre, on peut partir.
C'est un projet qui pourrait s'imaginer
Ah, tout à fait.
Là-bas.
Ouais. Oui. Ouais. Mmh. Enfin, j'œuvre en conséquence. Homme ou femme, chez moi.
Quel est le sens pour vous d'une maison qui serait pour donc des personnes âgées, hommes et femmes, mais qui soit aussi donc du logement social?
La raison. Parce que je me suis aperçue que beaucoup de personnes de ma génération bossaient, mais ne s'intéressaient pas trop aux retraites. Donc certaines n'ont même pas cotisé à des retraites complémentaires. Donc elles se retrouvent avec une simple retraite. Et donc les finances ne sont pas tellement brillantes. Et c'est difficile pour elles d'arriver à maintenir une qualité de vie. Or là, c'est une possibilité.
Vous êtes en train de vous donner au pied le plan, les fondations?
Je vais pomper, c'est ça que vous voulez, vous croyez? Non, non. C'est simplement pour montrer là-bas que
c'est une maison utopique, vous devez l'inventer, non?
Je dois l'inventer, bien sûr, mais ça, dans la tête, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas ça. Je veux montrer aux autres que ça, c'est possible là.
Alors, quel regard porte-t-on sur la vieillesse?
En ce moment, on porte un regard tout à fait...
Thérèse Claire.
J'allais dire déficitaire, j'emploie une expression marchande, mais on porte un regard assez terrible, ou même un regard de solitude. Des fois, le regard est extrêmement gentil, mais on n'a pas idée qu'un vieux, bah, finalement, c'est un jeune qui a pris beaucoup de jours et beaucoup d'années, mais c'est quand, ça pourrait être quand même un jeune, c'est que ça pourrait être quand même, malgré la déficience du corps, quelqu'un qui pense, qui rêve, qui désire, et en ce sens, c'est un vivant. Donc, on a l'impression que la société pose encore un regard comme si nous étions déjà morts ou presque morts, comme si nous étions agonisants. Ça n'est pas vrai. Et je refuse cette vision-là. Et la maison des Baba Yaga, pour laquelle je suis en train de vraiment vivre une passionnante histoire depuis 10 ans, la maison des Baba Yaga sera un lieu de vie. Ça ne sera pas un lieu de mort, pas un lieu de retraite. Non, surtout pas.
Cette maison de Baba Yaga, c'est une façon d'éviter la maison de retraite pour les femmes âgées?
Alors, c'est une façon d'éviter les solutions qui sont en cours en ce moment, en 2007, c'est-à-dire maintenir les vieux à domicile à tout prix, à n'importe quel prix. Moi, je suis pas tout à fait d'accord, parce que les vieux à domicile, une fois que l'aide-soignante est passée, ainsi que l'aide ménagère, ils restent tout seuls toute la journée. Donc, c'est l'ennui, c'est la solitude, c'est les dangers que cela suppose. Si jamais il y a une crise quelconque, un pépin vasculaire, une chute, ils peuvent pas se relever. Oublier de fermer le gaz, c'est dangereux pour toute la maison. Donc, moi, je suis très moyennement d'accord pour le maintien à domicile à tout prix. Je suis effectivement très dubitative vis-à-vis des maisons de retraite. Pour la plupart, ce sont des mouroirs. C'est d'une tristesse à périr. On maintient un peu les vieux en infantilisme, même avec les meilleures intentions du monde. Donc, finalement, bah, on empêche les vieux de faire ce qu'ils ont envie de faire. Promener, faut pas. Boire un coup, faut pas. Rigoler, c'est tout juste. Alors, on les fout devant la télévision. Moi, j'ai vu des maisons de retraite où ils sont toute la journée devant la télévision.
1 300 000 personnes qui sont donc en perte d'autonomie, c'est un marché important. Et il y a beaucoup d'institutions qui sont des institutions qui ne sont pas suffisamment surveillées, qui font un certain marché de la vieillesse.
Ah, absolument, absolument. On a pu parler même de termes aussi cyniques que le gisement du quatrième âge.
Bernadette Pujalon, anthropologue.
Quand on est très âgé et qu'on entre en institution, eh bien, on doit assumer en partie le coût de cette institution, notamment le prix de l'hébergement. Et à ce moment-là, si vous avez des revenus faibles, la quasi-totalité de votre revenu y passe. Et comme c'est même souvent insuffisant, bien à ce moment-là, vous avez une aide du département. Mais cette aide du département pourra être éventuellement récupérée, c'est-à-dire que là aussi, on peut voir une démarche d'infantilisation ou de mise sous tutelle, même s'il n'y a pas une mesure juridique de mise sous tutelle en bonne et due forme. Simplement, on n'est plus amené à faire les mêmes chèques, on ne dispose plus de son argent. Ou alors on se retrouve simplement avec un petit peu d'argent de poche, comme les adolescents, donc ce qui pose quand même pas mal de questions. Donc là, je crois qu'il y a une profonde injustice en fonction des classes sociales, mais qui est renforcée très nettement par, effectivement, le genre. C'est-à-dire que les femmes sont très défavorisées dans ce domaine par rapport aux hommes.
Elle reste mineure jusque dans la vieillesse, alors, finalement, pour cette génération-là.
Alors, je dirais pas qu'elle reste mineure, mais je dirais qu'elle reste, en tout cas, il y a une dévalorisation, elles sont défavorisées. Il y a une méconnaissance aussi du travail qu'elles ont pu accomplir pour la société, c'est-à-dire en s'occupant, effectivement, en élevant leurs enfants, en faisant du bénévolat, en ayant une vie associative, etc. Ça n'est pas reconnu sur le plan financier, c'est-à-dire que ça ne leur donne aucun droit au niveau de leur retraite.
Vous, les Baba Yaga, vous luttez justement sur ce contrôle à la fois de l'institution, sur ce contrôle des corps, ce contrôle médical.
Je dis qu'il y a toujours des défauts, des dangers plutôt que des défauts. Enfin, ce sont aussi des défauts, mais ce sont des dangers. Le pouvoir politique. Ils veulent manipuler les vieux qui, je le rappelle, vont être 17 millions en 2020. Donc c'est 17 millions de voix. Donc qui va récupérer 17 millions de voix? Quel pactole! Alors ça, c'est un très grand danger. Le pouvoir médical qui veut nous faire croire que nous sommes des malades, que la maladie, la vieillesse est une pathologie. Alors ça, c'est les deux dangers. Alors il y en a un troisième qui paraît plus curieux de prime abord, c'est-à-dire la sollicitude. Je vois bien qu'on me dit, mais Thérèse, mais assieds-toi, mais ne porte pas, mais on va y aller. Et j'ai l'impression d'être une petite fille qu'on soumet et que pour la gentillesse, je devrais dire merci et je leur ai dit, foutez-moi la paix, j'ai 80 ans, mais je peux encore faire les choses. Et tant que je peux les faire, je suis autonome.
Le vieux a l'expérience de beaucoup de choses, mais il y a une chose dont les vieux n'ont pas l'expérience, c'est l'expérience du vieillir. C'est aussi une découverte au jour le jour. Hein. Ce que sera demain, ils ne le savent pas plus que nous. Donc au lieu d'être dans une logique d'accompagnement, on va être dans une logique effectivement de prise en charge. Et de prise en charge, ce que j'appelle de manière très violente, des corps usés. C'est-à-dire, on va avoir telle personne, on va mesurer son degré d'usure, puisque maintenant on a des grilles de mesure pour faire ça. Hein. Et on va dire d'une personne, par exemple, qu'elle est GIR 1 ou GIR 2, ou GIR 3, ce qui va la classer dans un certain stade, un certain degré effectivement d'usure. Et on va dire, voilà, eh bien, elle est GIR 2 dans un EHPAD dont le GIR moyen pondéré est de 750, ce qui lui donne droit à une allocation personnalisée d'autonomie de temps. C'est ce que j'appelle exactement de la gestion des corps usés. Et donc, on est dans la prise en charge. Et quand moi, je travaille avec des soignants, je leur dis toujours, il faut vraiment essayer de gommer ce terme de prise en charge sur le plan social. Il montre bien la relation de puissance qu'il y a entre des plus jeunes vis-à-vis de plus âgés qui, encore une fois, vivent quelque chose que les plus jeunes ne connaissent pas, n'ont pas expérimenté. Et là aussi, les Baba Yaga sont dans un refus absolu de la prise en charge.
D'abord, nous voulons nous choisir. Ça n'est pas un projet qui a été pensé pour nous. C'est nous qui le pensons.
Suzanne Gouefic.
Donc, nous voulons nous choisir parce que faire le pari de vivre ensemble, d'assumer ensemble notre propre vieillissement, c'est quelque chose qui paraît un peu presque contradictoire dans les termes actuellement. Hein. Parce que les vieux, c'est fragile, les vieilles, surtout parce qu'elles vieillissent plus longtemps que les hommes. Donc il nous semble qu'on doit se poser la question de notre propre vieillissement avant de demander aux autres
10 ou 15 ans après, de penser pour nous, quoi. Parce que c'est toujours dans la catastrophe, dans l'urgence. Alors il y a ça. Ça, c'est la première chose.
Pourquoi est-ce qu'on passe tout de suite au registre médical quand on parle des personnes âgées ?
Alors, il y a plusieurs explications. La première, c'est une explication, je dirais, sociale. C'est que pendant longtemps, même encore maintenant, nous sommes dans une société qui ne veut pas considérer ce phénomène du vieillissement. Donc, on délègue des professionnels auprès des vieux en leur disant « réussissez là où nous échouons », c'est-à-dire « occupez-vous d'eux parce que nous n'avons pas envie de nous en occuper ». Et les premiers qui sont montés au créneau, effectivement, c'est le monde médical. Alors, on va voir la vieillesse comme une accumulation de maladies. Donc, dans ce cas-là, c'est bien des soignants qu'il faut. Ou on va voir la vieillesse aussi. Donc, ce qu'il faut à ce moment-là, c'est soigner. Ou on va voir la vieillesse comme une accumulation de déficits, de pertes. Donc, dans ce cas-là, on va être dans une logique palliative. Il va falloir compenser. Ou le pire modèle, peut-être, on va voir la vieillesse aussi. C'est le modèle pédologique, c'est-à-dire la vieillesse est une retombée en enfance. Et à ce moment-là, on va être dans la prise en charge et le maternage. Chose aussi que refuse les Baba Yaga, et c'est peut-être la pire dérive par rapport à la vieillesse, de considérer que les vieux retombent en enfance. C'est une ineptie profonde.
Et la deuxième chose, il nous est reproché de ne pas prévoir la perte d'autonomie. Alors, d'une part, nous nous inscrivons en faux contre le singulier de cette expression. Il semble indiquer qu'il y a une espèce de loi du tout ou rien. Ou bien on est quasiment autonome et on peut rester chez soi avec une dame qui vient faire le ménage 3 fois par semaine. Ou bien on a perdu la tête et il faut des maisons médicalisées. Or, nous pensons que c'est pas comme cela que ça fonctionne. Et notre pari, c'est le fait que, rentrant dans cette maison encore en pleine possession de nos moyens, hein, nous allons construire des nouveaux repères. Nous allons construire des rapports entre nous qui feront que lorsque l'une de nous aura des difficultés de cet ordre, parce que ça arrivera, bien sûr, nous ne serons pas obligés de changer complètement notre mode de vie et nos lieux de vie. C'est cela qui est dramatique pour les gens. Et il y aura sûrement un ralentissement dans les évolutions. Et peut-être que ces évolutions resteront à un niveau tel que la vie, jusqu'à la mort, pourra rester en ce lieu-là. Mais cela, les pouvoirs publics, pour l'instant, ne semblent pas pouvoir l'entendre.
Quoi qu'on en pense, des vieux qui entretiennent leur esprit, Paul Léoto, qui est un auteur que j'aime beaucoup, disait que dans la vieillesse, il fallait ferrailler son esprit. Donc, il ne faut pas s'arrêter, il faut lire, voir, regarder, interroger, interviewer, rester conscient de toutes choses qui nous entourent. Et j'appellerais ça être conscient politiquement.
Vous êtes dans le journal d'Île-de-France, ouais, les Baba Yaga.
Oui, je l'ai. J'espère qu'on parle de nous parce que comme quand même les histoires de financement sont un petit peu bloquées en ce moment, il faut qu'on parle de nous beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors toujours ce qui nous est renvoyé, c'est il n'y a pas de case pour vous mettre. Et ça, évidemment, un projet innovant n'a pas de case parce qu'il n'existait pas avant d'être innovant, il n'était pas là. Donc, je suppose qu'il n'y avait pas d'EDF avant que l'électricité soit inventée. Hein, ça. Donc, oui, bien sûr, il n'y a pas de case. Nous, ce qui nous semble, c'est que quand les administratifs butent sur une solution, c'est peut-être à ce moment-là que les politiques pourraient trouver des modalités pour permettre qu'une nouvelle case existe. C'est pas facile, je crois, de gérer un projet qui vient pas des politiques. Hein. Quand des politiques ont une idée en tête, et bon, ils savent comment mener leur affaire, et à ce moment-là, ils trouvent des solutions administratives. Mais là, c'est une dizaine de nénettes, une quinzaine de nénettes qui leur disent, ben voilà, nous, on a notre projet, c'est comme ça qu'on veut vieillir. Ah, alors là, c'est un peu déstabilisant, certainement, pour des politiques. Hein. Alors, peut-être qu'ils seraient enclins à se dire, bon, elles ont 75, 80 ans, allez, on enterre un peu le truc, elles vont avoir de l'arthrose, ça arrive, des machins comme ça, il y en a une qui aura un petit cancer qui évoluera pas trop vite parce qu'elles sont vieilles. Bon, ben voilà.
Elle est là. C'est elle, la dame de Colombes. Alors, bonjour à toutes les nouvelles, à toutes les anciennes. Aujourd'hui est un jour important parce que nous allons préparer le colloque du 9 et le 10 mars avec la pose de la première pierre. Quoi vous dire encore? Pour l'instant, on a un petit peu de difficulté. Le conseil général, en la personne de M. Popelin, il a un nom fait pour ses dos. M. Popelin dit que n'ayant pas d'homme dans notre maison de Baba Yaga, il ne va pas pouvoir donner sa signature. Il est évident qu'on a un peu de mal parce que c'est lui qui s'occupe des personnes âgées. Alors en ce moment, c'est le bras de fer entre la mairie qui veut absolument ce projet des Baba Yaga et le conseil général qui fait des difficultés parce qu'il n'y a pas d'hommes dans notre maison. Ben oui, il n'y a pas d'hommes, ils sont morts, je ne peux pas les ressusciter. Même si je le pouvais, j'en ferais rien. Mais voilà, alors il n'y aura pas d'hommes. Alors comme ce n'est pas la loi, alors on tourne. Nous assurons que nous ne rentrerons pas. Parce que ce qu'ils veulent, c'est que nous signions le cross. Ce qu'ils veulent, c'est que nous soyons dans le cadre d'un foyer logement. Donc, je vous le répète bien haut, j'espère qu'on est toutes solidaires. Nous ne signerons pas le cross et nous n'accepterons pas la dénomination de foyer de logement.
Est-ce que vous pourriez nous réexpliquer, Thérèse Claire, cette question de foyer dont vous parliez, de logement? Vous refusez de vous inscrire dans quel cadre, qu'on comprenne
bien? Parce que alors, le foyer logement a quand même un directeur ou une directrice, rentre dans le cadre de la DAS, qui a tout pouvoir de contrôle à l'heure qui leur convient et aux jours qui leur viennent. Étant autogérés, nous ne voulons pas de hiérarchie. Nous ne voulons pas de quelqu'un qui va nous dire vous faites où il faut faire. Nous, l'autogestion est vraiment le premier des principes de la maison des Baba Yaga. Donc l'autogestion, ça suppose que c'est nous qui gérons nos affaires et qui restons autonomes. Et que un des quatre principes de la maison des Baba Yaga, c'est-à-dire autogestion, solidarité, citoyenneté, écologie, la solidarité fera que nous serons également dans l'autogestion. Parce qu'on va être solidaire un petit peu par l'argent, mais on va être solidaire beaucoup par le corps. Parce que le corps ne va pas aller en s'améliorant, c'est évident. Donc nous allons pallier les premiers symptômes de fléchissement, au moins dans un premier temps, les maladies dégénératives restant effectivement de l'ordre que nous ne pourrons pas gérer, les maladies dégénératives. Le plus longtemps possible, nous nous garderons entre nous. Rouler une voiture, une petite voiture, enfiler des chaussures ou des bas, couper une viande, tout ça, c'est pas très difficile. Ça fait encore partie de nos compétences médicales. Donc voilà, nous ne voulons pas d'un foyer logement qui rentre, surtout la DAS, je veux pas de la DAS, parce que la DAS se prend des pouvoirs exorbitants, et ça, je n'entends pas négocier avec la DAS. Alors voilà, à peu près, donc, vive la révolution.
Il est grand cet appartement. Qu'est-ce que vous allez emmener dans la maison des Baba Yaga?
Même pas mon lit. Je crois que je vais me payer un nouveau lit. Parce que là, j'ai un lit double. Celui que j'utilisais avec mon mari. Mais là-bas, c'est pas la peine. Je suis en train d'économiser un petit peu d'argent. Je vais m'acheter un fauteuil. Parce que les deux fauteuils d'ici, même les trois. Non. J'ai envie de m'acheter un qu'on dit être formidable. Stressless, il s'appelle.
Allegra Mison, dénommée Chichi. Et tous ces livres, qu'est-ce que tu vas en faire?
Je ne sais pas, je vais donner au papa ce qu'ils veulent. Et le reste, je vais le mettre à Drouot.
Mais toi, ça ne va pas te faire mal au cœur de laisser des choses?
Je n'en sais rien. J'ai aucune idée.
Tu y penses ou pas?
Je pense pour le mettre quelque part. La bibliothèque, je croyais que j'avais une idée géniale. Un jour, je téléphone au baba. Je lui dis, vous savez, j'apporte une bibliothèque avec moi. Enfin, des bouquins, quoi. Elle me répond, ah oui, nous allons tout apporter le bouquin avec nous. D'accord. Ce sont toutes des femmes qui lisent. Je ne sais pas, on ne sait pas, tu sais. Quelque part, on laisse derrière soi. Le mieux, c'est de mourir en dormant. Tu vois, pas de question. Quand c'est des mères derrière moi...
à la maison des Baba Yaga comme ta dernière demeure.
Ah, ben je vois pas autre chose. Sauf l'hôpital si je tombe dans Alzheimer. Mais je vois pas d'autre chose. C'est-à-dire que même si ça ne va pas, parce que on s'assoit, tu vois, qu'est-ce que je disais pour ma dernière demeure? La question se pose, est-ce que je vais m'y plaire? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je connais bien quelques-unes avec qui je m'entends très bien, mais on sera 19. Attends. Hein? C'est une communauté. À la différence d'une communauté comme on l'entendait dans, en 68, c'est qu'on ne sera pas dans le même logement. Chacune sera seule, meublée comme elle veut, avec la soupe telle qu'elle a envie, avec de la viande ou pas de la viande. Il y a d'ailleurs une végétalienne parmi nous, même pas végétarienne. Elle ne mange même pas du beurre, ni du fromage. Elle est, alors là, chiante. Mais elle va se démerder toute seule. Ouais, ça m'est égal, je m'en fous. Mais par ailleurs, il y a des questions de caractère, ça ne fait pas de doute. Qu'est-ce qui va se passer ? Par ailleurs, qu'est-ce qui va se passer ici ? Incontestablement, il y a un problème qui se pose dans la vieillesse, qu'il faut prendre avec, avec patience, avec calme, auquel il faut réfléchir. Mais la meilleure des solutions, je n'en vois pas une autre, c'est les Baba Yaga. Voilà. Nous avons une charte qui établit les rapports de convivialité, disons les tendances pour admettre quelqu'un ou ne pas l'admettre, mais encore que. De toute façon, nous exigeons que nos quatre adjectifs caractéristiques soient réfléchis mûrement par chacune et soient acceptés profondément. Qui sont l'autogestion, où nous acceptons de balayer le couloir, où nous acceptons que les lieux communs soient entretenus par nous. Que de temps en temps, il y ait un homme de ménage ou quoi, qui vienne faire le gros avec les vitres. Ça, c'est une autre histoire. C'est nous qui devrons gérer les finances d'autogestion. Ça nous fera des économies substantielles. Bon. Parce que, par exemple, nous n'aurons pas de comptable. Dans la mesure où nous avons une juriste, il y aura les décisions juridiques. Il y aura les solutions juridiques, sinon les décisions. Tu vois, je dis même entretenir. Tu sais ce que ça coûte une femme de ménage au quotidien ? C'est nous qui le ferons. Par exemple, standardiste, il n'y aura pas. Par exemple, accueil, il n'y aura pas. C'est tout nous. Par exemple, nous avons décidé de faire un repas commun une fois par mois pour être sûr que nous bavardons en dehors de enlève ton petit bout de papier. Hein. Que donc il y a un échange plus profond et plus amical. Donc, cette fois par mois, c'est nous qui allons cuisiner, c'est nous qui faisons la vaisselle. Alors, ça, c'est des économies. Hein. Bon, second principe, c'est la solidarité. Et la solidarité signifie que nous aurons un tour de garde, de jour évidemment, mais même de nuit. Non pas qu'on sera obligé d'être réveillé, mais on pourra être réveillé par un coup de téléphone. Chichi, je me sens mal. Alors, pour commencer, je vais voir de quoi il s'agit. Éventuellement, je convoque un médecin ou une infirmière. Et de toute façon, le lendemain matin, je lui achète ses patates, ses carottes et je lui fais sa soupe. Voilà ce que représente la solidarité. Naturellement, si elle est malade, il n'est pas question que j'assume des fonctions que je ne peux pas assumer. Hein, je ne suis pas un médecin, je ne suis pas une infirmière, je ne peux pas faire une piqûre. Non, attention à ça. Il y aura aussi une solidarité financière.
Ça veut dire que certaines mettront un petit peu de sel dans les plats.
Non, on aura ce que nous appelons une tontine, qui est plus mignon que tirelire, voilà. Où nous mettrons, pas quand nous avons envie, nous nous engagerons, selon nos revenus, à constituer un fonds commun pour les urgences, pour je ne sais pas trop quoi, enfin, pour soulager les unes des autres, etc.
Vous n'avez pas de goût de luxe pour cette maison ?
De goût de beauté, si. De goût de beauté. Le luxe, je ne sais pas trop ce qu'on appelle le luxe. Enfin non, de goût de beauté, oui, ça c'est sûr. Hein. Que ce soit beau, que ça puisse... Il n'y a rien de plus triste que les associations qui se réunissent dans des locaux mal peints, avec la peinture écaillée, des mégots de la réunion d'avant qui traînent. Ça, on a tous connu ça. C'est attristant. Ça vaut mieux que ça, quand même, la vie ensemble. Donc, que ce soit beau. Oui, c'est ça. Que ce soit beau. Le luxe, non. D'abord, la plupart d'entre nous n'avons pas les moyens du luxe, mais de la beauté, ça, oui. La beauté.
gratuitement. Nous aurons même un petit cabinet de beauté pour se faire faire les mains, les pieds, les soins de la peau. J'ai obtenu des sous pour avoir un spa. Un spa, c'est un bassin bouillonnant d'eau chaude à 12 places. Donc, on va profiter. J'ai une amie qui est kinésie qui m'a dit « Je viendrai vous faire de la kinésie en eau chaude. » Donc, ça nous garantit des lendemains joyeux et sans douleur. Je compte bien inviter des femmes qui n'ont pas le droit à la piscine parce que c'est mixte. Donc, ces femmes-là, on les invitera pour qu'elles viennent partager avec nous les joies de l'eau chaude.
Vous aurez une piscine?
Oh, une piscine, c'est trop dire. Mais un spa, c'est quand même, je crois que ça fait au moins 8 ou 9 mètres de long. C'est un monument quand on le voit. Et alors ça sera installé dans la pièce de 200 mètres carrés en bas, où nous ferons de l'animation. Et c'est très joli parce que l'architecte s'est arrangé pour nous mettre le spa au bout de cette grande pièce qui donne sur le jardin de plein pied, et on l'ouvrira avec des panneaux japonais, des plantes vertes. Ça va être un jardin d'hiver magnifique.
Et vous imaginez aussi un lieu qui soit un lieu de plaisir partagé, de bonheur?
Ah oui, c'est même le désir premier, en ce sens que on veut que ce soit un lieu heureux, bien sûr. Notre amie Chichi disait l'autre jour, on lui disait « Mais pourquoi vous voulez ça ?» Elle a 88 ans, donc Chichi le disait, mais c'est parce que moi j'ai bien aimé la vie, j'ai bien aimé être heureuse dans la vie, partager bien m'amuser, bien profiter de plein de choses, donc je veux continuer et que ce lieu soit... Elle dit, si j'ai été intéressée, c'est parce que c'est ça qui a été mis en avant, de pouvoir vivre une vieillesse heureuse. Donc c'est ça qui l'a intéressée, Chichi, je pense que c'est ça qui nous intéresse, oui, tout à fait. D'ailleurs, je dois dire honnêtement, quand on est ensemble, on ne s'ennuie pas. Oui, ça c'est vrai. C'est pas guindé, c'est même quelquefois un peu coquin, peut-être, je ne sais pas, peut-être que ça pourrait... Étonnée,
elle me dit alors mamie. Et brusquement j'ai dit Hippolyte, je ne t'avais pas reconnue. Évidemment, ça a déchaîné le fou rire autour de moi. J'étais très contente, je suis partie très fière. Voilà. Alors, ce mamie-là, je ne peux pas le supporter. D'abord, je ne suis pas votre mamie, mes propres petits-enfants m'appellent de mon prénom, mon arrière-petite-fille m'appelle de mon prénom. C'est pas que je leur ai demandé, mais voilà, c'est comme ça.
Puis, nous avons toute notre vie, les femmes, été nommées d'abord parce que nous sommes des mères. Donc, il faut sortir de ce rôle maternel. Même toi qui n'as pas été mère puisque tu es célibataire, nous sommes toutes des mères. Et c'est l'apanage des femmes d'être des mères. Eh ben, non. Eh ben, merde. Je ne dirais pas cela.
C'est entre autres.
Ah oui, non, c'est pas entre autres. On existe parce qu'on est des mères. Si t'es pas mère, que t'es une femme, alors là...
Non, je veux dire, moi, je considère que je suis mère entre autres.
Je suis mère, entre autres, exactement. Tout à fait. C'est un pouvoir biologique, mais ce n'est pas une destinée sociale.
Non.
Mais c'est vrai, ça je le ressens moi maintenant, parce que j'ai mon âge, mais j'ai eu tout un moment où j'ai l'impression qu'on avait pitié de moi, parce que je n'avais pas d'enfant. Et moi, je ne me suis jamais fait pitié.
J'étais pas une vraie femme.
J'étais pas une vraie femme.
J'entends mon père dire, une femme qui n'a pas d'enfant, c'est pas une vraie femme. Alors j'ai essayé de lui faire dire qu'est-ce que c'était qu'une fausse femme, et ça, il ne savait pas dire.
La non-mixité, c'est un choix politique, une façon de se délivrer des hommes, de se consacrer à soi-même?
Mais ça n'est pas un choix politique, c'est une obligation démographique. Il faut savoir qu'à 75 ans, il y a 5 fois plus de femmes que d'hommes, à 80 ans, il y a 7 fois plus de femmes que d'hommes, ils sont morts. Donc il est évident que si vous visitez des maisons de vieillards aujourd'hui, ce sont les vieillards. Les vieux sont les vieilles aujourd'hui. Donc il est évident qu'on ne va pas aller contre la démographie, contre la nature finalement. Je n'aime pas beaucoup évoquer le concept de nature, mais il est évident que si on suit la démographie, 19 Baba Yaga, on va s'en coltiner 2. Ils vont être un peu perdus dans cette masse de femmes. Nous, on a beaucoup, beaucoup aimé les enfants, on a tout donné, on a beaucoup torché. Eh ben non, on va pas torcher les vieux, on veut plus. On veut un petit moment tranquille à nous. Et je trouve qu'effectivement, l'État voudrait bien nous refiler des vieux, parce que les vieux sont plus difficiles dans l'ensemble à caser que les vieilles. Encore, ils ont plus d'argent que nous. La discrimination nous poursuit dans le vieillage, mais je pense qu'ils ont qu'à se débrouiller, eux, pourquoi est-ce que vis-à-vis des Baba Yaga, ils se construisent, je leur avais trouvé un nom, la maison des bonobos. Donc la maison, le bonobo est un grand singe qui fait précéder tous les rites de la vie, nourriture, toilette, etc., d'un rite de plaisir, et vous me comprenez. Donc je suis très gentille en leur offrant une maison des bobobos, des bonobos, et je suis sûre qu'ils accueilleront des petites dames qui seront enchantées de leur tenir au moins les mains.
Vous êtes féministe?
Je sais pas, oui, enfin, si, j'ai probablement des tendances, mais je ne suis pas, je n'affiche pas, n'écoute pas, je dis que je n'affiche pas féministe, c'est pas obligatoire.
C'est un gros débat entre Thérèse et moi.
Oui. Non, mais est-ce qu'on est obligé d'avoir une étiquette? Moi, j'aime pas du tout les étiquettes. J'aime pas les...
Voilà, ça fait partie des choses qu'on discute ensemble.
Avoir des idées féministes et n'être pas féministe. Voilà.
Ouais, moi, j'ai...
Moi, j'aime pas beaucoup le côté exclusif du féminisme.
Ouais. Je le vis pas comme ça, mais je sais pas, t'as pas fait partie du mouvement féministe, parce que s'il y a un lieu où il y avait des affrontements, c'est bien celui-là. Hein. C'était pas un lieu unanimiste du tout. Mais tu sais, les débats, il y en aura beaucoup entre nous, c'est ce qui fait le charme de notre lieu.
Ça serait mieux, alors, Thérèse Claire, d'être féministe quand on participe au Baba Yaga.
Je pense que c'est indispensable.
C'est indispensable. Et d'avoir l'étiquette, d'être, de se proclamer. Je vais recevoir une gifle. J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas.
Moi aujourd'hui, ça me semble tellement extraordinaire. Les femmes qui te disent c'est une étiquette. Tu me sembles extraordinaire en disant ça. Tu comprends?
Non, mais
aujourd'hui, où tu vois que la condition des femmes baisse partout, dans le monde entier, j'ai entendu hier pendant 2 jours, jusqu'aux Indes, dans l'Indonésie, partout les femmes sont discriminées. Tu le sais, tu t'en rends compte. Je ne sais pas si tu as travaillé, tu as peut-être eu un bon mari. Ça, c'est la perte des femmes si elles ont un bon mari. T'as pas eu un bon mari. Bon. Et en plus, t'es pas féministe?
Je ne dis pas que je suis féministe, je suis probablement, mais je ne dis pas que je le suis.
Il faut le programmer, il faut le hurler qu'on est féministe, le hurler.
Non, il faut dire c'est le contenu de ce qu'on pense.
Si tu voyais, je vais t'inviter à passer 8 jours ici. Tu vois, la semaine dernière, on a passé 2 jours après une jeune femme qui avait été tailladée au rasoir, tu vois. Et ça, c'est toute la journée. Toute la journée, j'ai ça. Et t'es pas féministe?
Non, mais c'est vrai que Dieu merci. On a vécu avec des mecs qui n'étaient pas forcément comme ça.
Mais c'est pas une question d'homme, c'est une question de système. C'est comme si, moi, des bons patrons, moi j'ai connu des très bons patrons, il n'empêche qu'ils créent un système de classe, tu peux rien. Et que la discrimination des femmes par rapport aux hommes, c'est un système qui s'appelle le patriarcat. Bon, ben, t'appartiens à ce système-là. Alors, où tu milites ou tu milites pas.
Dites de temps en temps que le couple est le tombeau des femmes. Pourquoi ?
Le tombeau des femmes et la famille, leur cimetière. Alors là, je te dirais que je l'écrirais en lettres de 1 mètre de haut. Ce que je peux voir passer, c'est la...
Ils ne sont pas tous obligés de taper sur leur bonne femme.
Ils ne sont pas tous obligés. Mais si tu veux, ça fait partie des conditions extrêmes du patriarcat qui veut s'assurer le pouvoir à travers toutes les pratiques qui leur sont propres. La discrimination dans le boulot, les 27% de salaire que nous avons en moins, les coûts en plus. Tu ne veux pas faire l'amour, je te cogne.
Moi, je ne prendrai jamais un coup d'un homme parce que je sais où le taper et lui donner un coup de poing dans la gueule.
Une grande et bien bâtie, mais une petite créature comme ça qui pèse 40 kilos de poignet, tu penses que...
L'inconvénient
et puis l'avantage. Je suis pas féministe. Moi, j'ai connu des patrons qui étaient des patrons sociaux, les patrons chrétiens, tiens, qui se débrouillaient pour loger leurs ouvriers, pour leur trouver du boulot, pour ouvrir des cliniques. Alors, ça finissait par la féodalité. C'était Michelin. Tout à fait. Tout à fait. C'est mieux quand même que... Bon, mais il n'empêche qu'ils sont tous le fruit d'un système qui fait qu'il faut qu'ils fassent du profit sur le dos. Bon, alors nous... On fait du profit sur notre dos à travers le travail, la production. Mais ils font aussi du profit sur notre ventre à travers le plaisir et la reproduction. Donc on est en plein marxisme, mais ça... dire que c'est d'une autre nature, Suzanne, je ne suis pas d'accord. L'un engendre l'autre.
Justement. justement. Au sein des Baba Yaga, ce sera donc un lieu de parole aussi, donc entre femmes, ce sera aussi un entre-soi. Et peut-être que vous arriverez donc à échapper à cette pression, aux pressions masculines. Comment ?
Il y a des conditions démographiques et sociologiques qui ne sont plus tout à fait les mêmes. Nous sommes des femmes, le plaisir on peut encore, mais il faut dire que les hommes ne cavalent plus après nous. Il faut bien trouver d'autres solutions pour trouver l'apothéose. Et que, deuxièmement, nous ne sommes plus dans la reproduction. Et troisièmement, nous sommes hors production. Et c'est ça qui me fait espérer un nouveau style de vie et peut-être une utopie politique. Donc, si vous voulez, tous les piliers qui sont si forts et qui enferment les femmes dans des parcs comme des moutonnes, ça s'écroule quand on est vieux, quand on est vieille. Puisque c'est des vieilles, donc si vous voulez, les productions, reproductions s'écroulent. Donc nous avons déjà tout le temps choisi, nous sommes vraiment dans les utopies du temps choisi, nous avons tout le temps choisi, nous avons un petit revenu qui n'est pas toujours très... Mais enfin, on vit gentiment, ça nous permet de vivre ou de survivre. Donc nous pourrions trouver le futur, planter les racines du futur pour faire advenir une nouvelle société. Donc on va essayer de démontrer... que nous pouvons vivre autrement, que nous pouvons bien vivre et que le fondement du bien vivre ne sera plus l'argent et la consommation, mais le fondement du bien vivre sera, revenons à l'éternel retour de l'amour.
Je voudrais rappeler à Thérèse que c'est un homme, Aragon, qui a dit la femme est l'avenir de l'homme.
Oui, il m'a dit des conneries. Parce
non,
que...
non, c'est pas des conneries.
L'avenir de la femme, c'est la femme. Et oui. L'avenir de l'homme, c'est pas la femme. Tu comprends, il se récupère encore l'avenir. C'est encore nous qui allons turbiner pour l'avenir.
Non, il faut être juste. Je récuse.
Patriarca, 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 patriarca. La maison, comme dit Angèle, il me semble, j'ai tort peut-être, je l'adore.
Les vieux ne sont pas plus réactes que les jeunes, finalement.
Non, ça c'est une idée reçue, parce qu'on confond l'effet d'âge et l'effet de cohorte. Or, l'effet d'âge, c'est le nombre des années. Alors que la cohorte, quand on parle de cohorte, on parle d'un groupe d'individus qui, à un âge donné, ont vécu un événement marquant, qui leur a donné une certaine identité. Et donc, dire qu'en devenant vieux, on devient plus conservateur, c'est un cliché, je vous dis, où on confond la notion d'âge et la notion de cohorte. Donc, les 68-ards, par exemple, resteront, à mon avis, progressistes sur le plan des mœurs jusque dans leur grand âge. C'est ce que l'on voit d'ailleurs avec les Baba Yaga. Hein.
Réveillons nos soleils, réveillons nos soleils. Ne suis-je pas prisonnière ?
Alors 68, ça a été les féministes. 60...
Thérèse Claire.
Non, 68, ça a été mai 68, le beau mai 68. J'ai entendu des gens de 20 ans qui avaient des discours sur la liberté que j'aurais signé les deux mains. Je commençais à lever le nez, je commençais à écouter toutes mes oreilles. Et j'ai entendu ces femmes parler de liberté, de la liberté du corps, retrouver son corps. Et ça me semblait magnifique parce qu'il est bien évident que dans un mauvais ménage, le corps en prend un gros coup parce qu'on n'est plus aimé, on fait plus jamais l'amour, ça fait partie du désamour. Et que le corps est un peu en jachère et en attente.
Alors, vous militez aussi pour l'avortement et vous êtes vous-même une faiseuse d'anges.
Alors, on n'employait pas ce terme. C'est un terme antique, ringard. J'ai très vite, si vous voulez,
Alors, toujours. Pas l'employer, ce mot.
Parce que c'est un mot qui désigne un terme marchand. La faiseuse d'anges, elle faisait les anges en échange d'argent. Et que quand on s'est mis à militer pour nous-mêmes faire des... Là, c'est devenu une militance politique. Si vous voulez, le droit médical de l'avortement était une revendication politique. Tout comme à l'époque, les femmes qui ont eu des pratiques lesbiennes, dont je suis encore par hasard, par choix... les pratiques lesbiennes à l'époque ont été des pratiques politiques. C'était se retirer des hommes jusque dans l'intime, jusque dans le privé, ça a eu quand même un résultat de réflexion, c'était pouvoir jouir sans le coït. Et c'était s'apercevoir que déclencher cet orage chez l'autre avec des gestes aussi simples me faisait comprendre, pas absoudre, mais comprendre que les hommes se sentaient Jupiter, parce que dans ces moments-là, on sent Jupiter sur le corps de l'autre. Et cela m'a fait aussi entrevoir que la sexualité s'exerçait entre hommes et femmes en termes de pouvoir, et entre femmes, ça pouvait être en termes de pouvoir, mais ça pouvait être en termes d'échange. Et en ce sens, la sexualité devenait un bel humanisme, sexualité que à 80 ans, je retrouve encore, étant donné que le corps a moins de moyens, et surtout chez les hommes, mais que nous avons des pratiques de lesbiens et lesbiennes, parce que le coït n'est plus toujours possible, et que nous ne sommes plus en termes de pouvoir sur l'autre. Et ça, c'est une ligne très, très intéressante du corps, que beaucoup ne... Alors, à l'époque, j'étais une grande Reichienne, il y avait un très grand nom, c'était Wilhelm Reich. Wilhelm Reich a été un Freudien, il a été un élève de Freud, mais qui a dit cette chose extrêmement juste, que toute cette civilisation, quelle qu'elle soit, était maintenue dans la rigueur du sexe, la terreur du sexe, l'interdit du sexe, et que cela créait des cuirasses institutionnelles, c'est absolument son mot, et qu'effectivement toutes les sociétés sont corsetées à travers un désir sexuel qui n'est possible qu'à travers des codes sociaux.
Et vous avez eu donc une pratique féministe, alors à la fois avorter des femmes, c'est des souvenirs douloureux, c'est des souvenirs de libération, qu'est-ce
c'est
que c'est?
C'est des souvenirs étonnés encore des femmes qui étaient soumises à l'époque, qui ne se protégeaient pas alors qu'il y avait déjà des méthodes contraceptives. Il y avait derrière toujours un amour qui n'avait pas réussi. J'ai étonné de l'absence des hommes. Je n'ai vu qu'une fois un compagnon gentil. Mais le reste, ou alors je me souviens d'un petit portugais qui lui disait « Mais gueule pas comme ça !» Évidemment, on leur faisait mal, ça braillait un peu.
C'était surtout illégal.
Ah ben c'était illégal, bien entendu, il fallait... Alors je pense que c'était illégal, mais je pense que la société était mûre pour basculer dans une législation plus souple. Sinon, vous pensez bien que les renseignements généraux devaient être au courant de tous nos agissements. C'est assez miraculeux, on n'a pas été inquiétés, mais je pense que c'est parce qu'ils sentaient que la société était mûre et qu'il y avait une partie de l'électorat qui était mûre et une partie de l'Assemblée nationale qui était mûre, des députés qui étaient mûrs. Donc, effectivement, j'avais une autre peur au ventre quand j'avortais, c'est qu'il m'arrive quand même un pépin médical. Nous avons eu de la chance. Nous n'avons pas eu de pépin médical à Montreuil.
Beaucoup de femmes mouraient.
Ah, c'était la plus grosse pendant les avortements clandestins, mais faits par des faiseuses d'anges, là j'emploie le terme. Beaucoup de femmes, c'était la cause la plus importante entre 20 ans et 50 ans de mortalité des femmes. Donc nous demandions l'abolition de la loi de 1901, qui punissait, de la loi de 1920, pardon, qui interdisait l'avortement. Il y en a une qui est morte sur l'échafaud d'ailleurs en 43 avec cette loi et qui punissait de prison et d'amende les gens non seulement qui avortaient mais qui aidaient à avorter, les faiseuses d'anges. Là, nous y voilà. J'ai une amie qui est vieille maintenant, qui a 84 ans, qui vient ici souvent, qui a avorté 18 fois elle-même et qui après a aidé les copines à avorter. Mais elle n'a eu que 2 ans, elle a eu le sursis. Parce qu'elle n'avait pas demandé d'argent. Elle dépannait les copines. Et ça se passait comme ça.
Et Thérèse Claire, vous avez construit des abris. C'est vrai que la Maison des Femmes de Montreuil, les Baba Yaga, vous êtes une bâtisseuse, mais ce sont aussi des...
Je suis une bâtisseuse, c'est vrai, mais je pense qu'il faut une éthique. Nous, la chance des Baba Yaga, c'est qu'on n'a pas construit d'abord une maison en pierre pour y introduire des gens. On a d'abord construit un désir, une éthique... une vie de vieille différente, donc on a pu rêver. Vous savez, Michel Léris a un mot superbe, il dit que la révolution n'est jamais que l'évolution du rêve. Et je pense qu'aujourd'hui, on a une société qui manque singulièrement de rêve.
Je m'appelle Maria Winstock, je viens de la Dordogne, et puis avec un groupe de femmes, on a très envie de monter une structure avec votre projet comme exemple. En lisant les documents qu'on a trouvés sur Internet, j'ai quelques questions que j'aimerais vous poser. Par exemple, j'ai lu que vous voulez vivre et mourir ensemble. Est-ce que la loi permet d'accompagner quelqu'un comme ça, de faire un accompagnement aux personnes en fin de vie?
Oui, tout à fait. Il y a eu souvent ces problèmes qui ont été posés parce que des familles font barrage, mais il existe dans la loi depuis 2002-2003 la notion de personne de confiance. Et cette personne de confiance n'est pas forcément quelqu'un de la famille, n'est pas forcément un enfant, ou peut être un enfant parmi d'autres. Enfin, c'est une notion qui est établie, qui n'a rien à voir, bien sûr, avec les éléments d'héritage, hein, mais c'est la personne qui peut accompagner la personne vieillissante. Nous-mêmes, nous avions pensé à cela avant même que nous sachions le vote de cette loi, que nous entrerions dans la maison avec chacune une ou deux personnes de confiance. Hein? Oui, bien sûr.
Le côté autogestion, ça comporte quoi?
Ça veut dire qu'on n'aura pas de personnel attaché à la maison, on n'aura pas de directrice, on n'aura pas de gens qui vont déterminer les heures auxquelles nous devons manger, les heures auxquelles nous devons sortir. Nous n'aurons pas les gens qui viendront nous dire « Tiens, on va organiser telle activité pour vous parce que c'est pas mal ». C'est nous qui déciderons de notre vie. Alors c'est vrai que ça comporte effectivement un certain boulot, hein. C'est pas un lieu où on vient simplement pour poser ses bagages et se reposer. Mm-hmm. Sûrement pas.
Les personnes vieillissantes ont souvent leur caractère et leur personnalité bien formées. Comment vous avez fait pour s'adapter les unes aux autres, pour apprendre à vivre
Il n'y a pas que les vieux.
Aussi. Non, disons, c'est vrai.
Disons, mais peut-être, bon. Peut-être que pour avoir ce choix, il faut avoir une personnalité bien trempée. Alors, si, on a quand même prévu quelque chose. On a prévu que, étant donné que un lieu comme ça, c'est un lieu où il y aura des conflits, forcément. S'il n'y avait pas de conflits, ce serait dramatique, parce que ça veut dire qu'il y en a deux ou trois qui imposent aux autres, et ce serait du terrorisme. Donc le terrorisme est de beaucoup plus dangereux que le conflit. Mais nous avons prévu quand même qu'une personne médiatrice viendrait régulièrement, et pas simplement quand il y aura le feu à la maison, mais viendrait régulièrement pour que nous puissions poser les choses à pouvoir dépasser entre nous, qui est une personne extérieure et qui a l'habitude de ça, parce que c'est quand même un métier, hein. Enfin, il faut une compétence particulière pour que les choses soient posées au fur et à mesure et ne pas éviter au maximum d'entrer dans des conflits majeurs.
Donc, ce que je veux dire, c'est que les Baba Yagas, comme nous venons juste de l'entendre, peuvent être très cinglantes. Et donc, en ce qui me concerne, je viens juste d'être informée que je ne ferai pas partie des Baba Yagas, parce que mon caractère ou des bruits de chiottes, m'a-t-on rapporté, ont été dites ou viendraient de moi. Et ainsi, je ne ferai pas partie des Baba Yagas. Alors, je trouve que cette façon est presque méchante, blessante pour sûr, puisque je suis adhérente aux Baba Yagas depuis plusieurs années, et que hier, j'ai reçu un coup de fil d'une des trois Baba Yagas qui m'invitait à venir au repas mensuel. Et lorsque je m'apprêtais à payer ma cotisation, on m'a envoyé à une autre, en me disant « va, c'est la trésorière qui s'occupe de prendre les cotisations ». Et la trésorière de Gaulle m'a répondu « Nous ne voulons plus de toi au Baba Yagas ». Donc je pense que ce n'était pas nécessaire de traiter l'individu comme ça et qu'il y avait d'autres façons de le faire. Je souhaite quand même, malgré tout, bonne chance au Baba Yagas, bien évidemment. Mais je voulais souligner cet effet. Voilà, c'est tout.
C'est toujours très difficile de dire on veut pas de toi. Moi, je dirais qu'il m'est revenu qu'un petit déjeuner pendant la colonie de vacances, tu n'as su que traîner les gens qui avaient le pouvoir ici. Il est évident que tout est trop un peu. Et que effectivement, que vous ne vous rendez pas compte, il y en a qui commandent ici et qui dirigent. J'ai horreur des bruits de chiottes. J'ai horreur des racontards de bonnes femmes. Je serai implacable, et je le dis pour tout le monde, à des gens qui veulent nous dissocier, qui font des histoires et qui vont faire des histoires souterraines. Je n'en veux plus. J'ai travaillé, nous avons travaillé 10 ans pour cette maison, donc il faut qu'elle dure. C'est très difficile ce qu'on fait.
Non, mais j'ai très bien compris.
Oui, mais écoute, ma chérie.
Écoutez, je ne cherche pas à te faire changer. Non, excuse-moi. Je ne cherche pas à te faire changer. Je dis simplement que la façon dont tu as fait les choses n'était pas du meilleur choix.
Je te l'ai dit aujourd'hui.
C'est tout. Et que les bruits de chiottes qui remontent à 10 mois.
Ah, bah oui,
ça m'a pas informé. Oui, puisque c'était au mois de mai, je crois, que lorsque je suis allée avec vous.
Mais tu comprends, si tu as l'habitude des bruits de chiottes, ça va continuer. Ça, je ne veux pas. Je te dis, je serai.
D'accord, d'accord.
Bon, bah alors maintenant, là, c'est la réponse. C'est fini. Allons là-bas.
Non, mais je crois que le problème de l'articulation de l'individu avec le groupe, c'est un des problèmes, problèmes au sens positif.
Comment vous vous donnez votre avis sur les unes et les autres pour savoir qui va participer au Baba Yaga ?
Je crois que c'est très spontané. Nous essayons, franchement et honnêtement, d'abord de voir entre nous qu'est-ce que tu penses de cette personne.
Chichi.
Et celle-là dont tu as assisté que tu as assisté à son exclusion, si je puis dire, celle-là, il s'est trouvé que beaucoup ne l'admettaient pas. Tu vois. Donc, ce ne sont pas des actes d'autorité. Ce sont, comme dit Suzanne, ce sont des actes d'antipathie. Voilà. Et pas d'empathie. Parce que nous ne demandons même pas la sympathie, nous demandons qu'on vive en empathie. C'est-à-dire, pour parler français simple, qu'on soit sur la même longueur d'onde. Voilà. Nous ne demandons même pas de l'amitié. Ça, certainement pas. Pas de la copinerie, pas d'amitié, de la sympathie ou au minimum de l'empathie. Voilà.
Mais toi-même, tu as un petit peu peur du groupe.
Non, ce n'est pas du groupe que j'ai peur. Je me dis, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que nous serons toujours... Là, en ce moment, ça va bien. Je suis d'accord, je suis en empathie avec tout le monde. Mais sur les 19, je me pose des questions, pour te dire vrai. C'est évident qu'on se pose des questions, on serait fou de ne pas s'en poser. Mais il n'empêche que je choisis. J'ai quand même choisi, malgré les questions que je me pose, je me dis, c'est ça la solution, et c'est pas de rester seul chez moi. D'autant que rester seul chez moi, ça représente aussi pas mal d'ennuis. Alors, quand vous aurez atteint 87 ans, vous comprendrez que l'important, c'est que si vous tombez demain dans le couloir, quelqu'un viendra vous relever. C'est ça l'important. C'est aussi bas, aussi vulgaire, aussi trivial que ça.
Tu continues à te projeter dans l'avenir ?
Bien sûr, bien sûr. Mais si tu veux, moi maintenant, mon projection dans l'avenir, c'est les babas. Voilà.
When I was young, I lived in a world of dreams, of moods and myths and illusionary schemes. Though now I'm much more grown up, I fear that I must own up to the fact that I'm in doubt of what the modern cynics shout of. They say it's spring.
Vous savez, on a choisi de mettre en exergue de notre projet d'université populaire une phrase de Winnicott, dit « Mon Dieu, faites que je sois vivant quand je mourrai. » Alors. Pour les unes ou pour les autres, mon Dieu n'est pas forcément l'adresse choisie, ça c'est le choix de chacun. Mais être vivant jusqu'à ce qu'on meure, oui, 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 bien sûr. Il y a des modalités différentes d'être vivant, mais en tout cas d'être vivant, oui, ça c'est sûr.
That gave the whole world this crazy, heavenly, hazy hue. I'm a lark.
La maison des Baba Yaga, vivre libre et vieille. Un documentaire proposé par Najma Bouakra, à la réalisation Philippe Rouy, au mixage Philippe Carminati, à la prise de son Fabien Gosset et Pierre Comon.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 23 avril 2007. La maison des Baba Yaga a été inaugurée en février 2013. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne durant 1000 jours ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.
He made me laugh, he made me cry. He smoked his stogies in bed. But I'm alright, I'm alright. I've been lonely before. I asked the boy for a few kind words. He gave me a novel instead. But I'm alright, I'm alright. I've been lonely before. It's fine, it's okay. It was wrong either way. I just wanted to say it isn't much fun when you're drinking for one. He got drunk.